nos propres méthodes de communication sont plus mentales que verbales. D'où la voix que vous entendez actuellement qui est totalement mécanique.
Bah, je sais pas qu'est-ce qu'on se raconte.
Je voudrais mettre le doigt sur un truc énorme. Le clitoris.
Il y a un personnage d'Astérix qui s'appelle Clitorix ou pas?
Ok.
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 Ben, les femmes, c'est, justement, on n'en parle pas assez. On dit peut-être tout de même beaucoup aussi à cause des femmes. Les femmes font un très bon travail. Les meetings, les femmes prennent la parole, les femmes organisent, les femmes... je sais pas, il y a les femmes, donc elles participent. Et non pas en obéissant en mouton, mais parce qu'elles y croient et parce qu'elles veulent faire quelque chose, elles ont leur mot à dire.
Les clitorisiennes.
Les clitorisiennes. Ici les clitorisiennes.
Ouais, les clitorisiennes.
Radio Campus 88.3.
Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'Evars. Non, ce n'est pas le nom d'un nouveau personnage de Star Wars, ni le dernier film de Christopher Nolan. Derrière ce sigle qui gratte un peu la gorge, se cache l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. Un programme qui doit s'adresser, je cite, « à tous les élèves de la maternelle au lycée et vise à promouvoir les relations respectueuses et l'égalité de considération et de dignité entre les femmes et les hommes. Il contribue à la prévention du harcèlement, à la lutte contre les discriminations et toutes les formes de violence, dont les violences sexistes et sexuelles. » Ça paraît important, hein ? Pourtant, déjà, une loi de 2001 du Code de l'éducation prévoyait que l'ensemble des élèves devaient bénéficier d'une éducation à la sexualité tout au long de leur scolarité, à raison d'au moins 3 séances annuelles. Forte de constater que cette loi n'était pas appliquée, 3 associations de prévention, SOS Homophobie, le Planning Familial et SIDAction, se sont réunies. Et c'est sous la bannière « cas d'école », l'État ne fait pas ses devoirs, qu'elles ont saisi le tribunal administratif de Paris pour demander l'application pleine et entière de cette loi. Vous allez me dire « et maintenant ?» Eh bien, à partir de la rentrée scolaire 2025, l'EVAR, éducation à la vie affective et relationnelle en maternelle et élémentaire, et l'EVARS, éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité au collège et au lycée, doivent être une discipline à part entière. Quels sont les constats que l'on peut faire aujourd'hui? Comment ça se passe réellement? Quid des détractrices institutionnelles et associatifs? Pour en parler avec nous, aujourd'hui nous accueillons nos invités. Vincent Patignaise, tu étais prof et tu ne l'es plus. Maintenant auteur et formateur indépendant sur le genre, santé, sexualité et égalité. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Comment ça va?
Eh bien ça va super bien.
Génial. Et nous accueillons également Lorraine Charnassé, animatrice au planning familial du Loiret. Salut Lorraine, comment ça va?
Salut Clémentine, ça va super. Merci.
Génial. Et puis du coup avec moi évidemment mes comparses du jour, Glitch.
Oui, bonjour.
Bonjour. Et Bikini Kill.
Hello.
Régisseuse du moment. On commence par se poser quand même quelques petites questions entre nous. Vincent, donc tu es auteur, entre autres, d'un livre qui s'appelle « Accompagner la construction sexuelle et de genre chez les ados », qui est paru chez Double Ponctuation en 2023, et tu es ancienne animateur AES en établissement scolaire. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ?
Alors oui, donc enchanté, donc moi Vincent, donc c'est vrai qu'anciennement j'étais professeur documentaliste en collège, référent égalité et formateur égalité dans mon académie, voilà. Et donc maintenant je suis auteur et préventeur, formateur sur les questions d'égalité, genre, sexualité, voilà.
Ok, tu parlais un petit peu de à quel point c'était épanouissant d'écrire des livres en ce moment.
C'est honnêtement passionnant. C'est passionnant, en fait, c'est vraiment offrir à tout le monde la possibilité de partager ses lectures, partager ses idées, etc. Et c'est un vrai retour sur soi aussi, en fait, cette possibilité d'écrire.
Ok, donc vraiment une démarche d'éducation populaire, somme toute. Est-ce que les VARS existaient avant ce nouveau programme, en fait, dans les établissements scolaires? Et puis, quelle forme ça prenait? Comment, toi, tu l'as vécu?
Alors, en fait, ce programme EVARS, effectivement officialisé, entre guillemets, en septembre, existait déjà avant sous d'autres formes. Tu l'as bien précisé tout à l'heure, hein, 2001, mais même avant, en fait, hein, l'éducation sexuelle, en fait, existe. Donc, même si c'est inscrit dans la loi, on sait qu'hélas, les choses ne se font pas forcément. Et le programme permet en tout cas d'être un, même s'il y a des limites, un véritable levier en fait en établissement scolaire pour pouvoir accompagner les jeunes et les moins jeunes sur ces sujets.
Ok. Et du coup, quels sont dans les grandes lignes les sujets que tu pouvais aborder lors de ces interventions-là?
Honnêtement, on peut aborder tous les sujets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet tabou et c'est en fait c'est vraiment ce qui est top avec avec les VARS. C'est-à-dire qu'on parle d'égalité de genre, d'identité de genre. On parle des questions de violence sexiste et sexuelle. On parle de santé sexuelle. On parle en fait absolument tous les sujets. Et très jeune, on se rend compte que les ados, enfin voilà, apprécient vraiment qu'on prenne du temps pour les écouter et vraiment les accompagner sur tous ces sujets.
Ok. Et donc, toi, si je ne me trompe pas, tu étais professeur documentaliste, c'est bien ça?
Exactement, ouais.
C'est quoi le lien que tu peux faire entre cette posture-là, qui est quand même un peu singulière dans l'éducation, et la relation que tu peux avoir avec les élèves, que tu pouvais avoir avec les élèves, pardon?
Alors, en fait, l'avantage quand on est prof doc, en fait, dans un établissement scolaire, c'est qu'on a à disposition, en fait, un grand nombre de ressources. On est vraiment une personne ressource, une personne à l'écoute, et en fait, j'avais du temps, finalement, pour les jeunes, et j'avais la possibilité de mettre à disposition un grand nombre d'ouvrages. Type des égalités comme on connaît, et en fait on se rend compte que ça crée vraiment du lien très très profond avec les jeunes, et on se rend compte qu'après on avait des confidences extraordinaires. En fait, moi j'ai senti une énorme confiance.
Et est-ce que c'est ça qui t'a donné envie d'écrire pour les jeunes? Et est-ce que tu constatais un vide, ou au contraire juste tu voulais enrichir encore plus cette égalité?
Alors en fait, j'avais déjà l'idée de l'égalitech, mais je ne m'étais pas encore bien lancé. Et effectivement, je crois que sans les jeunes, je n'aurais pas lancé l'égalitech ni l'écriture. C'est-à-dire que quand mon éditeur m'a contacté, j'avais commencé à mettre en place un certain nombre de séances, d'actions et de projets. Et on s'est rendu compte que finalement, ce type d'action manquait en fait en termes de communication auprès des collègues. Donc on s'est dit, pourquoi pas proposer un document qui permet de rassembler à la fois les textes, des ressources, des conseils pour accompagner à la fois les collègues, mais aussi, pourquoi pas les parents et finalement aussi les jeunes dans tous ces sujets.
Ok, merci. On entend quand même pas mal parler d'associations qui se montent du type « les parents pas contents », qui sont un peu les détracteurs de ce nouveau programme EVARS. Est-ce que du coup, tu as déjà pu être confronté à ce genre de manifestation de la part des parents?
Alors j'ai été confronté d'une certaine manière. En fait, moi, c'était plutôt par rapport à l'apparition de mon ouvrage. C'est-à-dire que j'ai eu quand même pas mal de retours assez... assez terrible, hein. C'est-à-dire que de toute façon j'irai en enfer, etc. Je me suis pris des croix gammées en forme de, enfin les drapeaux LGBT+ en forme de croix gammées, etc. Ah, donc voilà, assez chouette. Mais sinon dans l'établissement scolaire, je n'ai pas eu de réactance pour le coup sur le sujet. Au contraire, j'ai eu des parents qui ont pris la peine de me contacter par téléphone pour me demander des précisions. Et ça, Je me suis dit que c'est qu'on avait réussi à mettre en place une certaine forme de confiance pour pouvoir en parler et qu'on restait pas dans des contre-vérités.
Ouais, carrément. Et du coup, là, si on s'adresse genre deux minutes à ces détractoristes de l'EVARS, qui probablement n'écouteront malheureusement pas cette émission, mais on pourra leur faire parvenir quoi qu'il arrive. quels sont selon toi les intérêts de ce nouveau programme, et est-ce que tu pourrais en pointer les éventuelles limites?
Ouais. Ben, je pense que déjà, un, c'est une très bonne idée de leur envoyer, c'est-à-dire que de toute façon, en le diffusant, on a quand même possibilité qu'il, à un moment donné, il arrive sur quand même quelques fils d'actualité. Mmh. C'est un peu mon objectif aussi, de pouvoir donner de la vraie information, en tout cas sur ces sujets, et puis voilà, parce que nous, on a débunké quand même pas mal de choses qui étaient absolument hallucinantes. L'avantage, encore une fois, c'est un programme qui accompagne la dignité de chacun et de chacune. En fait, au-delà de l'établissement scolaire, en fait, on est vraiment sur des sujets d'actualité et on se rend bien compte dans tous les écrits l'importance d'interroger. Voilà, on le sait, hein, cette République des hommes, cet ordre patriarcal. On parle de terrorisme patriarcal, c'est pas pour rien. Donc, si à un moment donné, nous, on donne pas les mêmes chances à tout le monde, on va avoir du mal, en tout cas, à transformer une société en espace social qui soit, en tout cas, respectable et respectueux pour chacun et chacune, quoi. Mmh. Voilà. Et dans les limites, le problème, c'est que c'est un programme. Avant, il y avait la loi. Je ne suis pas certain que le programme, sans qu'il y ait vraiment de pilote dans les établissements scolaires, puisse en tout cas avoir un impact assez fort. Et c'est-à-dire qu'encore une fois, on va compter sur des personnes un peu engagées. On va nous reprocher du militantisme, mais à un moment donné, il faut bien y aller, quoi.
Surtout que c'est à noter que en fait, les représentants EVARS, maintenant, ils sont obligatoires. Mmh. Du coup, on se retrouve même avec des gens qui n'ont pas forcément envie de le faire. Donc là où avant, ça reposait sur un volontariat qui faisait qu'on avait forcément des gens impliqués à ces postes-là, là, ce n'est pas forcément le cas. Ça peut... enfin, moi, je vois aussi cette limite-là. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Alors, le problème, c'est que ce n'est pas harmonisé du tout. Ouais. C'est-à-dire que moi, dans plein établissement, de toute façon, ça n'existe même plus. Les référents, référentes EVARS qui devaient avoir un rôle important, en fait, n'existent même plus. Voilà, moi, je suis parti. Voilà, je ne sais pas comment ça va perdurer par la suite. J'ai confiance dans mes collègues, bien évidemment. Mais non, il y a des limites parce qu'encore une fois, la formation, elle n'est pas au point. Oui. On n'en entend même plus parler. On entend quoi aujourd'hui en fait, des réappropriations, justement anti-genre, anti-progrès, etc., en fait, sur des enjeux commerciaux qui, en ce moment, réinstrumentalisent le programme et essayent, en tout cas, de se l'approprier. On voit bien le problème des subventions aux associations qui sont catastrophiques. Et bien, voilà, on observe quoi en ce moment? Des groupes réac, en tout cas extrêmes, qui sont en train, en ce moment, de reprendre la main sur le programme et sur les interventions. Et ça, c'est grave, en fait. C'est très, très grave.
Est-ce qu'il y a des associations ou des programmes qui sont à dénoncer vraiment aujourd'hui et dont il faut se méfier pour de vrai ?
Oui, quand même pas mal de groupes. Il y a toute une belle cartographie qui avait été effectuée, qui est extrêmement plurielle. Mais tout à l'heure, tu parlais des parents pas contents. Effectivement, tout ce qui est parents vigilants, maman louve, etc. On écho régulièrement avec ces personnes-là. Et là, on a certains programmes qui se développent aussi en ce moment, qui sont financés de manière en tout cas problématique et qui posent question en ce moment sur des potentielles interventions d'établissements scolaires. Je vais peut-être pas les citer là comme ça, mais moi, en tout cas, ça m'inquiète. On peut les retrouver, il n'y a pas de souci. Je pourrais en donner si on me demande. Mais bien sûr qu'à un moment donné, ça pose un gros problème, en tout cas de légitimité et de message qui va être transmis après aux jeunes. C'est-à-dire qu'on va revenir en arrière sur finalement des catégories binaires et encore une fois, le genre doit être figé, l'identité de genre n'existe pas et en gros, les femmes sont utiles uniquement pour procréer. Voilà un peu le message qui va être transmis si on laisse faire ça en fait. Et ça, c'est non. C'est non.
Eh bien, c'est non. Merci, Vincent. Et du coup, peut-être que c'est une question qu'on peut vous adresser à tous les deux, Vincent et Lorraine. À quoi peut ressembler une séance d'EVARS en établissement et quelles sont les difficultés qui peuvent être rencontrées ?
Alors, une séance d'EVARS, en fait, elle peut prendre finalement plein de formes et c'est ça qui est super. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut avoir des groupes d'élèves, des petits groupes d'élèves, des grands groupes d'élèves, des classes entières, des équipes un petit peu mobilisées sur du temps personnel. On peut faire du débat, on peut faire des activités, on peut faire des séances. En fait, c'est tellement riche. On peut tout à fait créer aussi une campagne culturelle, voilà, aller au cinéma et parler du film après. En fait, on peut faire tellement de choses. Honnêtement, tout le monde peut s'y mettre et c'est bien l'objectif du programme, c'est que tout le monde puisse s'y mettre. Dans tous les cas. Enfin, les formes, en tout cas, sont plurielles et je pense qu'on peut vraiment, en tout cas, s'y retrouver d'une manière ou d'une autre, que ce soit par l'art, par la science, par même les mathématiques. En fait, tout le monde a sa place.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Lorraine ?
Oui, pour donner un exemple de forme dont tu parlais, Vincent, là, il y a un lycée qui nous a sollicité au planning familial récemment pour participer à un podcast et je trouve que l'initiative est vraiment super. Et tu nous questionnais par rapport aux difficultés. Nous, au sein du planning familial, moi, j'ai fait face à plusieurs difficultés, notamment vis-à-vis des professeurs. On parle d'un manque de formation. Je trouve que c'est compliqué d'intervenir auprès d'élèves si, par ailleurs, les professeurs ne sont pas elles-mêmes convaincus de notre discours et des messages qu'on cherche à faire passer. Par ailleurs, ça peut être assez violent pour certains et certaines adultes de faire face à un groupe de filles qui va manifester des violences quotidiennes et faire part des violences qu'elles vivent au sein de l'établissement, en dehors de l'établissement. Et je trouve que c'est pas facile s'il y a ces deux pans-là à travailler.
Et du coup, est-ce que les établissements ont fait appel à l'expertise de l'association Planning Familial pour former justement les professionnels et les accompagner ?
Alors non, pas à ma connaissance.
Ok, est-ce que tu as une idée de la raison pour laquelle ça se passe comme ça ?
Alors j'ai ma petite idée de la raison, après on nous a rien dit officiellement, donc je veux pas non plus... attiser des tensions qui pourraient déjà y avoir, mais en tout cas si on parle... de nos discours qui peuvent être caractérisés comme féministes, extrémistes. Je pense que déjà, il faudrait aller chercher de ce côté-là. On a déjà des établissements qui nous ont expliqué qu'il et elle ne voulaient pas faire appel au planning familial parce qu'on avait un discours qui était situé politiquement, mais en même temps, les questions d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle sont situées politiquement. Donc c'est que je pense que ces personnes n'ont pas compris le principe même de ce programme.
Et ouais, et du coup, enfin, de moi, ce que j'ai compris, c'est que les enseignants, enseignantes qui ont envie de s'investir là-dedans bénéficient d'une formation qui est très brève, de quelque chose qui ressemble à une visio de 2 heures, hein, qui est censée les outiller suffisamment pour pouvoir intervenir sur toutes ces questions-là. Chose que au planning familial, si je ne m'abuse, c'est quelque chose qu'on travaille quotidiennement. C'est des recherches constantes, une évolution constante sur tout un tas de sujets, une veille nécessaire sur énormément de sujets. Et là, en l'occurrence, on parachute des profs qui sont pas forcément déjà convaincus du projet et en plus qui sont pas outillés pour pouvoir bien animer ça auprès des enfants. Mais du coup, c'est quoi qui serait important selon toi, Lorraine, pour continuer à faire appel à ces associations? Et c'est quoi le lien qui existe à l'heure actuelle avec les établissements scolaires?
Le lien, tu veux dire en termes relationnels?
Ouais. Comment c'est travaillé? Comment c'est préparé, ces interventions?
Eh bien, il y a des collègues qui font partie de l'équipe du planning familial qui vont rencontrer des professeurs qui portent le sujet au sein de l'établissement. Parfois, ça peut arriver que la demande découle d'un événement qui se soit produit au sein de l'établissement. Donc, on va aller questionner les professeurs sur leurs difficultés, qu'est-ce qui s'est passé exactement et comment nous, on peut travailler ensemble lors de ces séances. Il peut y avoir des demandes spécifiques. On a eu des demandes spécifiques pour des classes sur les questions de pornographie, par exemple. Donc nous, après, on va travailler en interne sur comment on peut aborder ces sujets-là avec les élèves. Donc il y a vraiment un travail de co-construction avec les professeurs. Et puis après, le lien lors des séances, lors de ces temps-là, il est assez propre à chaque professeur, puisqu'il y a des personnes qui peuvent intervenir lors des séances, qui sont très informées et qui sont très contentes de participer. Il y en a d'autres qui vont être plus en retrait. Et ça appartient à chacun, chacune.
Ouais, et quand on sait que finalement l'éducation, c'est la question de la répétition aussi, de savoir qu'il y a des alliés dans les établissements scolaires qui peuvent continuer à faire le lien sur ces différentes questions et qui vont accompagner les jeunes dans leur quotidien dans les établissements scolaires, c'est hyper intéressant. Et pour avoir déjà fait des interventions dans le collège où tu bossais avant, Vincent, c'est vrai que c'est quand même très agréable de se dire on sait que ça n'est pas l'être morte ce que l'on pose là pendant ces 2 heures d'intervention, en fait ça va être suivi au quotidien. Et du coup, ce serait quoi, selon toi, Lorraine, et puis selon toi, Vincent aussi, en quoi c'est vraiment important de continuer à faire ces séances?
Alors moi, je peux commencer. J'ai quelques idées, en fait. Je me suis amusé à lister un petit peu ce que j'observais en ce moment et pour faire prendre conscience qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser comme ça. Je vous lis, mais là, quand on voit, par exemple, cet été, quand on a eu les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur les questions des parcours de transition des personnes trans, on voit le groupe de travail, en fait, que j'ai la chance de connaître certaines personnes, en fait, on subit des pressions énormes, en fait, des groupes réac là-dessus. C'est-à-dire que si à un moment donné, on n'assiste pas à ces groupes-là, on n'assiste pas les sujets, les jeunes plus tard, on connaît les conséquences du stress minoritaire et puis les conséquences sur sa propre vie. Si j'ai le temps, c'est un ouvrage dont je parlerai après. Je lis d'autres choses. J'écoutais dernièrement une personne aussi, une gynécologue, qui expliquait que, je vous lis, l'homosexualité est une merveilleuse solution pour gérer un trauma de l'enfance, un refuge pour ne pas tomber dans la pathologie. Enfin, à un moment donné, quand une essayiste, polémiste, journaliste française dit que, en gros, ce sont les militants à cheveux bleus qui enseigne l'idéologie du genre aux enfants et le progressisme totalitaire, ou quand on voit le Pentagone qui qualifie de déchet woke une série relative à l'homosexualité dans l'armée américaine, je me dis en fait on peut pas laisser les jeunes confrontés à ce type de propos. Mais c'est-à-dire que nous on a vraiment un rôle de rempart à un moment donné, de médiation pour dire à un moment donné il y a quelque chose qui va pas. On peut pas agir uniquement quand il y a un souci, ça c'est vraiment ce côté, quand on parle de debunking, il faut aussi pré-bunker, c'est-à-dire il faut penser les choses en amont et il faut, voilà, quand on voit ces mots-là, on peut pas se dire qu'il faut rester sans rien faire, quoi.
Ouais. Bah, par ailleurs, si on veut parler des violences un peu plus globalement, là tu parles de la transphobie, mais les violences envers les femmes et les minorités de genre, c'est un énorme problème de société. Et donc je pense que continuer à intervenir dans ces classes pour prévenir ces violences et également permettre un espace pour en parler, puisque au final, il y a très peu d'espace qui existe pour pouvoir dénoncer ces violences-là et dire que nous sommes des adultes de confiance et que des structures comme le planning familial existent et on peut venir parler de tout ça et on peut être accompagné. Ça me paraît hyper important.
Ouais, le SAV, quoi.
Moi, j'avais une petite question aussi pour nos invités. On parle beaucoup des masculinistes aujourd'hui, qui sont largement et bien trop médiatisés. Mais est-ce que vous sentez que ça a un impact chez les jeunes auprès desquels vous pouvez intervenir et comment ça se manifeste? Et puis, j'ai envie de dire, dernière question, mais peut-être la plus importante, comment on fait?
Bah, effectivement, moi, ce sont des discours que j'ai pu entendre et recevoir, donc j'ai été assez choquée lors de mes premières interventions en milieu scolaire. Après, je pense que c'est important de rappeler que ce sont des discours qui, enfin, selon moi, ce ne sont pas des discours majoritaires. Je pense que ce sont des personnes qui parlent très fort et ces élèves-là peuvent prendre beaucoup de place dans la classe, mais une fois qu'on apporte des chiffres ou une fois qu'on cherche à les questionner et un peu à détricoter leurs propos, on arrive facilement à les mettre en difficulté. J'ai envie d'aller dans le sens de Marie Bergström, qui en parle dans son livre suite à l'enquête Envie. Donc le livre, c'était La sexualité qui vient, si je ne dis pas de bêtises. Et elle montre qu'il y a quand même une grande majorité des femmes et des hommes qui se définissent comme féministes aujourd'hui. Alors bien sûr, pour les hommes, je crois que ça remonte à 56%, donc on est loin de mon monde idéal en tout cas, mais ça progresse et j'ai pas envie de laisser trop de place à ces discours masculinistes.
Viser l'utopie, c'est beau.
Alors je te rejoins complètement, en fait on voit quand même des manifestations assez claires et effectivement souvent ce sont juste quelques élèves mais qui prennent beaucoup de place en fait, et en fait on l'observe tout simplement dans des actes, dans des attitudes que l'on observe dans la recherche, hein, c'est-à-dire tout ce qui va être gaslighting intellectuel, les questions d'injustice épistémique, en fait on voit les manifestations finalement de ce qu'on lit chez les adultes. Le souci qu'on a, c'est que les collègues ne sont pas formés sur ces sujets et du coup ne repèrent pas en fait ces attitudes problématiques et ne sont pas en mesure finalement de reprendre les élèves. Il faut être capable de leur dire, écoute, là ce que tu fais c'est sexiste, ce que tu viens de faire ça s'appelle du man-interrupting, etc. Parce qu'on voit à côté les élèves complètement en attente en fait de dire, il n'y a pas un adulte qui va réagir là. Et les élèves le disent très bien, les adultes réagissent pas et la violence vient aussi des adultes. Et ne pas réagir, c'est de la violence. Donc en fait c'est aussi pouvoir accompagner ces jeunes sur se dire, mais à un moment donné là, regarde ce que tu fais, c'est pas possible en fait. Il y a des vraies conséquences sur ce que tu es en train de mettre en place et à un moment donné l'adulte doit être là pour dire pareil, stop, il doit dire non.
Ouais, donc ce suivi, cet accompagnement pédagogique, il se fait dans les deux sens aussi. Il y a aussi beaucoup de choses à absorber par ailleurs quand tu portes ces valeurs-là dans un établissement scolaire, quoi. Petite question complémentaire, qu'est-ce qu'on pourrait répondre aux détracteurs qui disent qu'on parle de cul aux enfants de 6 ans?
Eh bien, je vais reprendre déjà tes propos, Vincent, tout à l'heure. Moi, je les inviterai dans un premier temps à lire le programme, parce que là, pour le coup, c'est écrit noir sur blanc et ça ne peut pas être plus clair. D'autant que pour les enfants de 6 ans, on ne parle pas d'EVARS, mais d'EVAR, donc éducation à la vie affective et relationnelle. Donc il n'est pas question de sexualité, et quand bien même il serait question de sexualité, il n'est pas question de pratique sexuelle. Ces séances-là, elles sont hyper importantes pour développer ce qu'on appelle les compétences psychosociales des enfants. Grosso modo, c'est apprendre l'empathie, à gérer ses émotions, comment gérer un conflit, identifier les émotions et identifier les besoins qui en découlent, avoir conscience de soi et de l'autre, comment faire pour pas intervenir dans l'espace de l'autre. Enfin, en fait, des savoir-être qui sont hyper importants pour construire une société plus juste, plus égalitaire et dans le consentement. Et j'ai quand même envie de rappeler un chiffre qui est hyper important, mais il y a, selon la Civise, un enfant sur 10 qui est victime de violences sexuelles. Donc ces séances-là, elles sont primordiales pour dépister ces violences et par ailleurs proposer un espace pour parler de ces violences-là.
Ok. Et d'après vous, quelles seraient les modalités idéales de ces interventions, que ça ait vraiment un impact dans l'éducation et dans le quotidien de ces jeunes ?
Selon moi, dans mon monde idéal, j'aspire à voir les élèves sur plusieurs années. Ça serait chouette de pouvoir les retrouver et de pouvoir les voir plusieurs fois dans la même année. On a eu la chance d'intervenir dans un lycée où on a pu voir les jeunes sur plusieurs séances dans la même année, en demi-groupe. Donc ça, c'est aussi privilégié comme mode d'intervention. On les a vus à la fois en mixité, mais également en non-mixité. Je prône vraiment très fortement la non-mixité également parce que je trouve que ça permet d'aborder des sujets en lien avec le genre, qui sont, bah, comme j'en ai parlé tout à l'heure, les violences. Et puis, un vrai intérêt de la part des professeurs, une vraie formation à destination des professeurs, de manière à ce qu'on puisse intervenir ensemble. Mais malheureusement, tout ça, ça demande aussi du temps, des moyens humains. Et donc, on n'est pas en capacité aujourd'hui au planning familial de pouvoir faire ça avec toutes les classes. Mais ça serait vraiment très chouette.
Oui, des moyens humains et financiers, parce qu'on n'oublie pas que le planning familial est fortement impacté et que les baisses de subventions impactent évidemment les interventions en milieu scolaire par voie de conséquence.
Je voulais vous demander si vous pensiez que le modèle scandinave, qui a en fait des personnes désignées pour faire de l'éducation à la sexualité, mais du coup sur plusieurs années par contre, c'est vraiment quotidien, c'est un cours un peu comme un autre. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait marcher ? Est-ce que c'est quelque chose qui marche ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager ? Alors, sans vouloir mettre de côté les assos, c'est pas du tout la question. Mais est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne ? Bah, c'est plus ça ma question. Est-ce que vous pensez que ça fonctionne ?
Alors moi, je pense que ça peut fonctionner à partir du moment où on n'a pas de biais, en fait. C'est-à-dire que, parce que si vous suivez, par exemple, un même groupe avec vos propres biais, etc., et avec un discours complètement sclérosé, alors forcément, du coup, l'impact va être négatif. En revanche, les choses sont bien ancrées, et puis du coup, ça veut dire avoir une autre culture aussi. Mmh, donc ça, dans mon monde idéal à moi, ce serait effectivement d'avoir cette culture qui soit davantage intégrée, qui soit un peu plus courageuse aussi, parce que là, on a des exemples aussi où finalement, l'ambition, l'engagement est plus courageux. Là, dans notre programme, on manque vraiment de courage. On voit bien le rétro-pédalage régulier, les cliffhangers réguliers. Il y a des questions qu'on a un peu éludées. On n'ose pas trop en parler, etc. Parce qu'attention, ça va faire réagir. Il faut vraiment avoir en fait une organisation, une pensée en fait, pour la suite. Quand tout à l'heure, on a eu la question justement sur les masculins, c'est-à-dire que quand on pense les masculins, il faut penser en fait toute une cartographie thématique autour, c'est-à-dire que quand on travaille ce sujet-là, on va travailler les stéréotypes, on va travailler les biais, on va travailler le système normatif de genre, on va travailler ce qu'on appelle le patriarcat par capillarité, et c'est-à-dire qu'il nous faut vraiment du temps pour en fait décliner finalement tous ces sujets-là. Donc si on avait des choses qui soient un peu plus ancrées et qui soient un peu plus actées dans le temps, dans l'espace, etc., bien sûr qu'on arriverait à aller beaucoup plus loin sans ces peurs régulières d'avoir des freins, etc.
Et est-ce qu'un moyen de faire ça, ce serait pas par exemple de passer par le collectif et essayer de réfléchir à un groupe de travail qui pourrait prendre les assos, les profs, faire un truc un peu, en tout cas un groupe de travail sur la longue durée aussi, quoi, en fait.
Mais bien sûr.
C'est peut-être ça qui manque aussi, une pérennité.
Une pérennité et donner la parole en fait aux personnes concernées, parce que moi, ça me fatigue quand je vois dans les médias qu'on n'est pas capable de faire intervenir aussi des personnes sur le terrain, des profs, vous les collègues des assos, etc., avec qui on travaille super bien. On fait intervenir des prestataires extérieurs et qui connaissent pas le sujet, qui connaissent pas les jeunes. Enfin moi, ça m'agace quand je vois des émissions en fait où on parle de l'EVAR si on fait venir personne, en fait, en lien avec l'éducation directement. Enfin, à un moment donné, il y a un problème, en fait. Donc, des vrais groupes de travail avec des gens qui connaissent leur sujet, et voilà, si on pouvait travailler ensemble, et moi, effectivement, je dis oui tout de suite.
Oui, et par ailleurs, si on pouvait inclure les jeunes pour partir également de leur vocabulaire et de leurs connaissances. Enfin, nous, en tant qu'asso d'éducation populaire, ça fait partie de notre manière de travailler, et pour moi ça me paraît fondamental de s'adresser à des personnes avec leur vocabulaire plutôt que d'arriver avec des termes qui datent d'il y a 20 ans et où en fait ils se moquent bien de nous quand on est à côté de la plaque, quoi.
Clairement. Je ne sais pas si c'est une artiste qui est particulièrement suivie par les collégiens et lycéens, mais Lorraine, tu nous as proposé de passer un morceau de Suzanne qui s'appelle Viril. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce titre-là ?
Eh bien, parler des Vars, c'est fondamentalement pour moi lutter contre les stéréotypes de genre. Donc là, c'est ce qu'elle aborde dans cette chanson. Moi, si j'avais pu avoir cette chanson à 12 ans, je pense que ça m'aurait fait beaucoup de bien. Donc c'est pour ça que je voulais la partager aujourd'hui.
Ok, et ben du coup, paraît
que je suis forte comme un garçon, que je me bagarre comme un garçon, que j'ai l'air manqué comme un garçon. On dit que j'en ai dans le pantalon, mais moi je suis forte comme une fille. Je sais me battre comme une fille, j'ai la tête haute comme les autres filles. Paraît que je marche comme un garçon, que je dirige, que je suis pas sage quand je me force pas à sourire. Mais on m'écoute pas comme une fille, on me reluque comme une fille, on m'explique tout. On m'explique même le mansplaining. Ici je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers. Quelle importance si je l'ai. Virile, fille virile, depuis que je suis gamine. Maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile. Paraît que je me sape comme un garçon, que j'ai de la poigne comme un patron. Je pars à la guerre, je défends mon frère, je fais des affaires comme un garçon. Mais moi je bosse comme une fille, je suis patronne comme une fille. Je défends mes droits, je peux les perdre comme les autres filles. C'est pas mon genre comme un garçon de me laisser faire. Mais comme une fille, on m'a appris à toujours me taire. Rentre pas trop tard comme une fille, change de trottoir comme une fille. Marche plus vite comme les autres filles. Ici je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers. Quelle importance si je l'ai. Virile, fille virile, depuis que je suis gamine. Maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile. Depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile.
Et on se retrouve avec les clitoriciennes. Du coup, on enchaîne avec une petite chronique de Bikini Kill. C'est à vous.
Oui, merci Clémentine. On a parlé, Vincent a beaucoup parlé, et Lorraine également, des réappropriations actuellement, hein, des détournements du programme EVARS. Et donc moi je voulais faire une petite chronique sur une, entre guillemets, contrefaçon, en tout cas un point de vigilance à avoir. Alors je vous parle, je décline, hein, et je vais citer « Amitié, amour, sexualité, des sujets au cœur de nos vies ». Donc c'est ainsi que se présente le parcours Teen Star sur un site très coloré, très pimpant, très joli, qui accroche l'œil. Je cite à nouveau, Teen Star est un parcours d'éducation affective qui accompagne les jeunes désirant découvrir le sens de l'amour et de la sexualité par petits groupes conduits par des animateurs formés par l'association. On apprend donc que ce programme se décline en 15 à 20 séances hebdomadaires dans des groupes non mixtes pour permettre aux jeunes de réfléchir sur leur vie affective, sexuelle et sociale. Donc je dirais que je retrouve un peu tous les codes que vous avez nommés, en tout cas tout ce qu'il faut pour mener à bien des séances d'EVARS. Bon, il est noté qu'il s'agit d'une approche aconfessionnelle. Pourtant, on va lire ailleurs sur le site que à la base de la pédagogie Teen Star, il y a 5 dimensions de la personne, intellectuelle, physique, affective, sociale et spirituelle. D'ailleurs, tiens, à propos de la soi-disant neutralité confessionnelle, on découvre aussi plus loin que ce programme il a été créé dans les années 80 aux États-Unis par Anna Close, qui est une religieuse gynécologue qui était favorable aux méthodes de planification familiale naturelle.
Teen Star vise, selon elle, à valoriser l'image du corps et de la fertilité auprès des jeunes filles. D'ailleurs, Anna Close a dit « la pilule donne la valeur zéro à la fécondité ». Et donc se déroule, au fil de notre découverte et de la lecture, une orientation pro-vie qui paraît, bien entendu, peu compatible avec la neutralité qui est, en tout cas, annoncée par le programme officiel des VARS. Sous prétexte de prôner une sexualité, et là j'ouvre les guillemets, responsable et adulte, et d'inciter les adolescentes à connaître leur cycle, Teen Star tente plutôt de les éloigner de leur entrée dans la sexualité, et en somme, bah, c'est bien l'abstinence qui est prônée. On va aller un petit peu plus loin, et je suis allée visiter le blog de l'association. Et je suis tombée sur un article à propos de la série Sex Education, je ne sais pas si bah, vous le connaissez, plutôt une série qu'on a bien aimée, qui donc a connu et connaît un grand succès en France, notamment. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de la sortie de la saison 2, il y a eu la parution du petit manuel Sex Education.
Oui.
Et le mot manuel offusque donc les auteurs du blog, car il évoquerait, et là j'ouvre les guillemets, un mode d'emploi. L'éducation, et je continue à citer, l'éducation affective serait donc affaire de mode d'emploi. On transmet des, ouvrez les guillemets encore, donc il cite quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, des techniques de masturbation. On réduit donc la sexualité à une activité mécanique dans laquelle le but sera exclusivement le plaisir, l'enjeu et la performance. Donc, on dénonce ici une forme d'hypersexualisation. Et puis, on voit bien ce qui est à l'œuvre ici, c'est un dénigrement classique, déguisé, qu'on a pu retrouver dans des associations réactionnaires que vous avez citées, hein, type SOS Éducation. Je vous rappelle d'ailleurs, à propos, parce que pour moi ça a résonné quand même, que SOS Éducation avait lancé une pétition contre la mise en place de l'EVARS avec ce slogan « À l'école, enseignez-moi les divisions, pas l'éjaculation ». Tout cela, bah, vous l'avez vu, coïncide avec une vision volontairement réductrice et mensongère de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle telle que ça a été défini dans cette émission. Et s'il existe un fantasme de récupération idéologique, il n'est certainement pas à chercher du côté du programme officiel. Et en France, il faut savoir que Teen Star a été déployé à partir de 1993 grâce au Centre d'éducation pluridisciplinaire et de personnalité, le CEPP, qui est une association qui a été présidée par une certaine Angela de Malherbe, soutien affiché de la Marche pour la vie et proche du médecin homophobe et conservateur Henri Joyeux. Autour de Teen Star gravite encore aujourd'hui donc toute la galaxie anti-choix et c'est par exemple au communicant anti-IVG Émile Dupont que le site Teen Star a été conçu.
Mais que des chouettes personnes, tout
ouais,
ça, dis
tout
donc.
Tout à fait, ouais. Donc, vous voyez bien, hein, on voudrait que ce soit anecdotique, et pourtant, ça ne l'est pas. Parce que cette nébuleuse, elle essaime dans tout l'Hexagone, et même dans notre région. Et a priori, même dans notre département. Attention donc aux contrefaçons de l'EVARS. Et je voulais juste dire merci à Maëlle Lecor pour son article du 17 mai 2024 que vous pouvez retrouver dans Politis, qui m'a permis de sourcer précisément cette petite chronique.
Eh bien, on reste sans contrefaçon. Merci, Mylène. Et du coup, est-ce qu'il y a des événements, enfin en tout cas des associations territoriales, orléanaises peut-être, qui seraient aussi des contrefaçons des associations visant à plus d'égalité, visant à l'accès à la santé sexuelle de manière générale? Est-ce que vous avez des connaissances? Est-ce qu'il y a des entités dont il faudrait se méfier?
Eh bien, je pense directement à Familia, qui est une structure qui s'est installée à côté du planning familial. Donc, Familia est une structure qui est financée indirectement par le fonds du bien commun. Et donc, ce fonds-là est financé par Monsieur Stérin.
Ah. Mmh.
Que peut-être vous avez eu la joie d'entendre dans les médias ces derniers temps et qui a récemment évoqué dans une interview, si je dis pas de bêtises, il a appelé les personnes à mettre en couple, enfin en tout cas à inviter nos amis hétérosexuels à se mettre en couple. Les personnes qui ne sont pas en couple doivent se mettre en couple afin de procréer.
Oui. Oui.
Et par ailleurs, je vais pas reprendre tous ces propos parce que c'était hallucinant, mais bien sûr, ne pas se mettre en couple avec n'importe qui et de façon à avoir des enfants. Et donc, ça nous fait quand même penser au terme de réarmement démographique. Mmh. Donc cette association, récemment, j'ai pu voir sur Google qu'elle était référencée comme LGBTQIA+ friendly. Mmh. Je trouve que c'est très, 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 très dangereux de pouvoir individuellement se référencer comme tel. Je pense bien évidemment à toutes les personnes qui se posent des questions, quel que soit leur âge. C'est un moment où on est très vulnérable quand on se pose toutes ces questions-là. Et je pense que faire face à une écoute qui ne soit pas ouverte sur tout ça, sur l'identité de genre, l'orientation sexuelle, ça peut être très dangereux pour les personnes concernées. Donc oui, je trouve que c'est important de parler de cette structure qui prend de plus en plus de place. Et donc là, c'est l'exemple à Orléans, mais la Confédération du Planning Familial a observé que cette structure... Alors, est-ce que c'est fait de manière volontaire ou pas? Nous ne savons pas, mais nous pouvons supposer peut-être que cette structure fait exprès de s'implanter à côté des antennes du planning familial.
C'est le cas dans plusieurs villes, du coup.
Oui, oui, oui. Et donc, ça peut porter à confusion pour les personnes qui ne connaissent pas le planning familial avec un autre terme, familia. Enfin, il y a quand même une consonance assez proche. Et puis, quand nous allons sur leur site, évidemment, nous avons les mêmes missions. Mais il faut creuser un petit peu pour après comprendre les discours et les orientations.
Ouais, puis bon, quand même avec un biais un peu classiste, parce que manifestement, c'est cher de bénéficier des services de Familia. Mais toutefois, c'était assez intéressant. Alors, vous ne l'entendez pas, mais il y a beaucoup de sourcils qui se sont levés quand dans la même phrase, il y a eu LGBTQIA friendly et Familia dans la même phrase. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus ou on peut passer au plan cul ?
Ouais, juste rapidement, je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire. Et en fait, ce terrain, on le retrouve aussi là dans Lift aussi, un autre groupe qui se met en place là, pour organiser des séances. Il y a eu un très bon papier de Mediapart justement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes sur ce sujet. Et donc, on retrouve toujours les mêmes personnes, donc toujours les mêmes démarches derrière. Et ce sont parfois des groupes qui avancent de manière un peu masquée. On ne se rend pas bien compte de ce qu'il y a derrière. C'est un peu comme les publications parfois de SOS Éducation. On ne se rend pas bien compte au début qu'il y a un problème. Et en utilisant le même vocabulaire, en fait, ça brouille complètement les pistes. Je pense aussi une fois à une collègue qui nous disait « Vous faites bien de nous le signaler » parce que c'était une personne de l'Observatoire de la Petite Sirène qui avait contacté l'établissement et nous a dit « Écoutez, si vous ne nous aviez pas expliqué en fait, que ça existait et qui était finalement derrière cet observatoire, en plus le mot observatoire souvent renvoie sur une image parfois plutôt positive, ces personnes auraient fait venir cet observatoire dans l'établissement scolaire. » Voilà. Donc c'est important d'en parler et d'expliquer ce qui existe en tout cas et de dire de pointer les limites et les dangers en fait de ce type de groupe.
Ok, merci. Est-ce qu'on y va pour les plans cul, des références qui peuvent ouvrir les chakras de la santé sexuelle et de la vie relationnelle et affective davantage que de les étriquer? Est-ce que Glitch, tu veux commencer?
Oui, je peux commencer. Alors moi, je vais conseiller un livre de Gabriel Richard qui s'appelle Hétéro l'école et qui est en fait une espèce d'étude comparée sur l'éducation à la vie affective et sexuelle en France et au Québec. Alors ça date un peu, je ne sais plus quand ça a été paru, mais je dirais les années 2015, 2016, quelque chose comme ça. Et c'était hyper intéressant parce qu'on ne fait pas les choses du tout de la même manière. Et moi, l'aspect qui m'a le plus marqué, c'est sur justement l'orientation sexuelle. Je trouvais ça très intéressant, ce qu'elle disait sur les profs au Québec qui vont dire, par exemple, j'étais avec mon compagnon, ma compagne au cinéma, tout ça. Ce qu'on va faire aussi en France, mais sous condition qu'on soit hétéro. Et eux, ils vont le faire peu importe, en fait. Et elle expliquait que c'était aussi une culture pareille qui faisait qu'on normalisait auprès des jeunes des orientations sexuelles plus variées. Et donc ça, c'est l'aspect qui m'a le plus marqué, mais il y a tout un tas de choses. Il y a plein de ressources aussi pour les enseignants sur comment changer fondamentalement sans faire des séances qui... pour lesquels peut-être on n'est pas formé, tout ça, qui en tout cas donne un mode d'emploi de comment être devant les élèves et comment faire passer des messages positifs dans cette optique-là. Voilà, donc lisez Hétéro l'école, c'est très très bien.
Ok, merci beaucoup pour cette reco. Est-ce qu'on poursuit sur la littérature, Vincent ? T'as plein de bouquins sur la table, pareil, vous ne les voyez pas.
J'en ai pas mal. Et juste pour compléter, Gabriel Richard a publié il n'y a pas très longtemps une petite brochure qui s'appelle « Sexualité positive, oui », coordonnée justement par le Centre de recherche des sexualités de l'Université de Genève et qui est gratuite en ligne, voilà, en complément c'est et plus bien. Récente. « Sexualité positive, oui », pour une sexualité aussi inclusive. Donc j'ai ramené pas mal de livres, j'ai eu du mal à choisir. J'ai ramené notamment Alison Bechdel, « Lessivé », un roman comique, et c'est génial, un roman graphique. Si vous aimez Alison Bechdel, vous allez adorer ce nouveau roman graphique. Aujourd'hui est sorti La Nuit Retrouvée de Lola Lafont et Pénélope Bagieux, en fait, où on suit une famille, mais notamment une maman qui se confie à sa fille sur un événement qui s'est passé quand elle était jeune maman, etc. Mais je peux pas vous dire le secret, parce que sinon je vous révèle tout le livre, mais c'est vraiment chouette et c'est très intime et c'est vraiment beau en tout cas à lire. Et c'est une belle nouveauté d'aujourd'hui chez Gallimard BD. Mais je voulais surtout vous parler aujourd'hui de Sage de Quentin Zution, donc chez Le Lombard aussi, parution récente. Et là, on suit toujours le parcours de Quentin Zution, qui aime écrire, dessiner, voilà, sur sa propre vie. Et là, en fait, on suit à son âge adulte les mémoires un petit peu de son enfance et de son adolescence, le fait de se découvrir homosexuel, etc., et les réactions homophobes de son entourage, les surnoms à l'école, les propos désobligeants au repas de famille, etc., et les conséquences sur la santé mentale aujourd'hui, finalement, de ces comportements homophobes, notamment sur les questions de stress minoritaire, mais l'impact que ça a aujourd'hui aussi sur la confiance en soi, la construction de son corps et finalement le fait d'anticiper la suite de sa vie. Donc encore une fois, un très beau document de Quentin Zution, comme d'habitude.
Oui, qu'on adore.
Ok, merci. Et du coup, Bikini Kill, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander, toi ?
Moi, j'ai deux trucs à vous recommander. Moi, j'ai lu Enfin Seul, qui est de Lorraine Bastide, qui est sorti en septembre dernier. C'est un livre qui est entre essais, récits intimes, et surtout qui nous invite à sortir de l'hétérosexualité pour expérimenter une solitude créatrice et qui serait émancipatrice. Donc il s'agit pour Lorraine Bastide de nous inviter à nous échapper du carcan patriarcal qui place la femme seule, mais pas forcément célibataire, je précise, dans la case des mal baisés, des vieilles filles à chat et tout ça et tout ça, pour construire des nouvelles manières d'être et de faire société. C'est une lecture assez fluide, comme souvent avec Lorraine Bastide, avec des apports historiques, sociologiques intéressants. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était justement ces apports étaient un petit peu courts. J'aurais bien aimé qu'ils soient développés. J'enchaîne ?
Bon, oui.
Ouais. Alors j'ai vu sur Arte en replay « Ceci est mon corps », qui est un documentaire de Jérôme Clément-Vils, qui était enfant dans les années 90 et qui était agressé sexuellement par un prêtre, Olivier de Citivo, qui était ancien recteur de la basilique de Clairy-Saint-André, donc près d'Orléans. Et donc on parle beaucoup d'Orléans d'ailleurs dans ce documentaire. Il faut savoir que les sévices ont duré des années, jusqu'à ses 14 ans, et qu'il documente ce passé qu'il avait complètement occulté et qui va ressurgir brutalement. Et puis, il porte plainte en 2018 avec trois autres jeunes. Et donc, il se filme lui-même, entouré de ses avocats ou alors de ses proches et de sa famille, et j'y reviendrai. Et donc, il va documenter toute cette procédure judiciaire. Le procès aux assises a eu lieu en 2024. C'est un processus qui est très douloureux et on le voit bien dans les images et dans le discours, mais aussi qui va être salvateur pour lui. Mais c'est aussi pour moi, je trouve, un film politique parce qu'il filme le quand même de manière très implacable le déni de l'Église catholique, mais aussi un déni familial qui fait assez froid dans le dos quand on regarde ce documentaire. Donc je vous recommande vivement, soyez, attention, trigger warning quoi.
Ouais, prenez un petit plaid, une tisane, c'est tout ça, mettez-vous bien, et puis un DVD de Kung Fu Panda à côté si jamais. Du coup, je prends le relais. Moi, mon plan cul, là, c'est la page Instagram du Passage du Désir. En effet, c'est une page d'information sur les questions de sexualité et de vie affective inclusive et déculpabilisante. Et en plus de ça, Passage du Désir, ce sont des sex shops, et figurez-vous que le puritanisme orléanais n'a pas empêché l'ouverture d'une boutique rue de la République. Oui. Alors, non, j'ai pas d'action là-bas, mais en fait, comme j'en fais quand même la promo parce que je trouve que c'est vraiment hyper cool qu'un shop prenant la culture du consentement et la sex-positive attitude ait pignon sur rue dans cette ville. Et sur ces entrechats, bah, je prends le relais pour lancer la deuxième musique. Moi, j'aimerais vous partager un morceau qui s'appelle « Doux pays » de Candeur Cyclone. Alors, j'ai découvert Candeur Cyclone il n'y a pas longtemps. C'est un duo qui explore les genres musicaux autant que les thématiques brûlantes comme la santé mentale, les addictions ou les masculinités toxiques. Mais aujourd'hui, voilà, je voudrais vous partager ce morceau qui, en partie, dénonce l'impunité des célébrités criminelles.
Je pose rarement mes limites, je préfère que la frustration s'empile. Je me sens jamais légitime, j'en vis de plus en plus les âmes cises. J'aimerais ne jamais me questionner sur ma place et mes envies. Pouvoir flâner dans la nuit sans avoir peur qu'on me poursuive.
Une fois sur deux, quand je sors, on menace de me planter. Je sais plus trop où mettre les pieds sans avoir peur d'y rester.
Une fois sur deux, quand je sors, on me dit à quel point je suis jolie.
Message viril et tranché, la moitié mes DM, c'est je vais te retrouver petit PD.
Menace de viol sans arrêt, on dit qu'on rêve de me sauter. Quand je dis que c'est peut-être un peu violent, on me répond que j'ai qu'à pas montrer. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt pour cracher sur les filles et insulter les homos. La vie appartient aux putains de machos. Suffit pas d'être fiché, être un homme c'est déjà trop.
Et oui, un court morceau, mais qui fait du bien. Et on revient avec Clémentine parce que c'est le moment tant attendu de l'horoscope.
J'ai toujours pas de jingle.
Mais
il faut
oui, c'est vrai,
que
il faut
façon.
Toujours un jingle. Ah, mais j'aurais pu t'en mettre un. Tu veux que je t'en mette un?
Non, ça va aller, je te remercie. Alors, ça tombe bien parce que tu m'as fait un petit teaser de cet horoscope, puisque aujourd'hui, la thématique de cet horoscope, c'est quel personnage de Sex Education êtes-vous?
Ah oui!
Ah oui!
Génial!
Alors, Bélier, vous êtes Maeve, rebelle, brillante et allergique à la connerie masculine. Tu prends des décisions avant d'avoir fini ta phrase, et pourtant, tout le monde finit par t'admirer. Tu fais fuir les faibles, séduis les fortes et refuse catégoriquement les doubles standards. Amour, tu ne tombes pas amoureuse, tu t'écrases dans l'amour façon météorite intellectuelle. Mais ce mois-ci, laisse quelqu'un te lire entre les lignes plutôt que de fuir au prochain chapitre. Travail, tu vas dominer un projet comme une queen anarchiste en Doc Martens. Sexualité, passion brûlante, mais garde peut-être un extincteur émotionnel. Taureau, tu es Jean. Sensuelle, posée, mais toujours prête à parler libido autour d'un thé vert au jasmin. Tu crois au pouvoir du corps, du consentement et d'un bon plaid. Tu as probablement déjà dit à quelqu'un « C'est pas toi, c'est ton blocage émotionnel non résolu ». Ton signe astro devrait s'appeler « thérapie » ou « coach en développement personnel » tout attaché. Amour, tout le monde veut tes conseils, mais personne ne veut t'écouter quand tu dis « je t'aime ». On va falloir changer ça. Travail, tu mérites une augmentation et un massage crânien. Sexualité, vibration haute. Et pas que spirituel. Gémeaux, tu es Otis. Un cerveau qui fuse, une bouche qui déborde et une vie sentimentale plus confuse qu'un plan d'éducation sexuelle britannique. Tu veux comprendre tout le monde, sauf toi-même. Mais tu es sincère, curieuse et tu finis toujours par aider les autres à mieux s'aimer. Amour, tu analyses tellement que tu risques de rater le flirt. Pose ton cerveau, prends ton corps et vis. Travail, ton éloquence te sauve encore, mais ton retard chronique te poursuit comme un ex toxique. Sexualité, beaucoup de discussions, il est temps de passer à l'action, Freud. Cancer, tu es Eric. Explosion de paillettes émotionnelles, tu pleures,
Eric.
Tu ris, on adore Eric.
Non, oui.
Tu pleures, tu ris, tu danses, tu brilles, et quand tu souffres, tu mets des talons pour aller mieux. Tu n'as pas peur de l'amour ni de toi-même, et tu fais de ta vulnérabilité une arme de séduction massive et de militance. Amour, c'est ton mois de drama positif. Ton cœur est un feu d'artifice et ça attire les papillons de lumière. Travail, tu illumines ton équipe, mais arrête les flirts pour rassurer les filtres pour rassurer les jaloux. Sexualité, paillettes, si. Émotions et larmes post-orgasme, sans doute les meilleures. Lion, tu es Ruby. Charismatique, exigeante et toujours sur ton 31, même pour pleurer dans les chiottes. Tu es l'icône que tout le monde jalouse, mais derrière la façade, il y a un cœur et un cerveau. Tu sais que le girl power, c'est d'être belle, forte et de ne plus s'excuser pour ça. Amour, tu reprends le pouvoir, un regard à la fois. Si quelqu'un n'est pas à ton niveau, il est au sous-sol. Travail, les projecteurs t'adorent, profites-en pour imposer la parité salariale avec style. Sexualité, exploration de la domination sous gloss waterproof. Vierge, tu es Amy, adorable maladroite et en pleine traversée de la résilience. Tu veux que tout le monde soit heureux, même ton sac à main traumatisé. Ta douceur n'est pas de la faiblesse, c'est de la force en forme de gâteau à vulve. Amour, tu apprends à dire non, et ça te va mieux qu'un filtre Instagram. Travaille. Tu veux tout bien faire, fais juste ce qui te fait du bien. Sexualité, slow sex, self-love et beaucoup d'écoute. Balance, tu es Jackson. Tu veux plaire à tout le monde, surtout à toi-même. Quand t'arrives à savoir qui tu es en vrai. Perfectionniste dans tes relations, comme dans ton style, tu jongles entre vulnérabilité et confiance. Amour, arrête de t'excuser de vivre. Dis oui aux preuves d'amour. Travail, charisme olympique, mais trop de compromis te font ramer. Sexualité, exploration, ajustement, écoute, le consentement est ton sport favori. Scorpion, tu es cale. Tu respires la liberté et le refus d'étiquette. Ton regard dit... Essaie de me mettre dans une cage et je t'y enferme à ma place. Tu inspires, tu déranges, tu bouscules. Bref, tu existes pleinement. Amour, tu n'as pas besoin d'être comprise, juste respectée. Et cette énergie attire les bonnes personnes. Travail, tu casses les normes sans casser les gens. L'art du leadership queer. Sexualité, tu pars à l'aventure sans GPS ni honte. Sagittaire, tu es Ola. L'esprit libre, la curiosité sans limite et la flemme des tabous. Tu explores, tu expérimentes. Tu éduques et tu prêches la tolérance avec style. Ton slogan, consentement d'abord, câlin ensuite. Amour, tu t'ennuies vite, mais ce mois-ci, quelqu'un pourrait te surprendre en citant Bell Hooks. Travail, tu veux révolutionner ton environnement, fais-le. Mais n'oublie pas de t'hydrater. Sexualité, flirt philosophique et découverte sensorielle, tu veux tout essayer et tu as raison. Capricorne, tu es Vivienne. Tu es sérieuse, brillante et tu cites Simone de Beauvoir juste pour le fun. Les gens pensent que tu ne ris jamais, mais c'est juste que ton humour est intellectuel et ton féminisme stratégique. Tu es celle qui mène la révolution avec un PowerPoint. Amour, tu veux du sérieux, mais le destin t'envoie des amateurices. Recalibrage nécessaire. Travail, tu es la personne la plus compétente de la pièce, même ton ordi le sait. Sexualité, rare mais intense. Mix entre efficacité suisse et passion italienne. Verseau, tu es Lily. Tu as inventé un nouveau mot pour décrire ton genre environ hier. Tu vis dans un monde de créativité, de fiction érotique et de revendications poétiques. Tu n'as peur de rien, sauf de l'ennui. Et peut-être des gens qui ne savent pas ce qu'est un clitoris. Amour, ton cœur est un manifeste non-binaire. Tu aimes hors des cases. Travail, tes idées sont trop avant-gardistes pour ton boss, mais parfaites pour TikTok. Sexualité, entre expérimentation et poésie corporelle, tu réinventes le Kama Sutra inclusif. Poisson, tu es Adam. Sensibilité refoulée, grand cœur en reconstruction, tu apprends à pleurer sans t'excuser et à aimer sans te cacher. Tu es la preuve vivante qu'on peut être vulnérable et puissante. Amour, tu découvres qu'aimer, ce n'est pas se fondre dans l'autre, c'est grandir avec. Travail, tu cherches ta voie. Et si elle n'existe pas, tu vas la créer. Sexualité, le bandage, c'est sympa, mais attention au nœud au cerveau. Et là, on peut dire que ce serait le jingle de fin quand on l'aura fait.
Ah.
Ouais. Et du coup, on va terminer cette émission avec les « On se retrouve » parce que quand est-ce qu'on se voit, jeunes gens ?
Bah déjà, merci pour l'horoscope quand
Avec plaisir.
Oui, bon, moi, super. Je suis très déçue pour mon signe personnellement parce que je pense que la période ne va pas être simple. Mais je ne sais pas vous, j'ose pas demander à nos invités.
Alors, j'ai pas ouvert de SAV par contre.
Moi, je suis un peu vexée.
T'es un peu vexée.
Parce qu'elle a dit que c'était Simone de Beauvoir à tout va. J'aime pas du tout le ton qu'elle a pris en fait.
Bon, en tout cas, merci pour ce grand moment. Oui, alors on se retrouve. Moi, je vous propose de retrouver la coopérative Drag le 15 novembre. Au Dropkick pour un cabaret queer.
Moi, je vous propose de nous retrouver au cinéma pour aller voir La Vague. Alors, j'en ai pas beaucoup entendu parler, mais juste Victoire Thuillon l'a recommandé parce qu'apparemment, c'est une comédie musicale féministe et j'étais là, ok, j'ai pris des places et voilà. Donc,
allez.
Voilà.
Ok. Et vous, on vous retrouverait où là dans le mois prochain, jeunes gens, Vincent et Lorraine?
Ben moi là prochainement on peut me retrouver à Saint-Malo, voilà, donc je suis plutôt contente.
Et sinon dans le coin?
Et sinon dans le coin, là comme ça j'ai pas de recommandations.
Moi vous pouvez me retrouver à la marche pour le 25 novembre, qui est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre. Venez.
Très bien, bah alors
mais
venez.
Oui,
et alors
merci
ça
beaucoup.
Tombe hyper bien que tu dises ça parce que figurez-vous que vous allez pouvoir retrouver les clitoriciennes en chair, en os et en son et en voix au 108 pour une émission spéciale avec Radio Campus pour un apéro audio. Et j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est bien le 28 novembre.
Le exactement 28,
ça. Vendredi 28 novembre et on parlera, ce sera un numéro dédié aux violences de genre. avec des invités qu'on ne va pas vous dévoiler pour le moment, mais ça va être très très bien. Et ça va se terminer en soirée festive, donc ce sera au 108 à partir de 19h. Venez discuter avec nous, c'est une émission en public. Voilà, on aime bien faire ça, parce qu'après des fois on fait des quiz.
Ouais,
skip. Voilà, et ben voilà, merci à tous, merci.